6h41 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Vous êtes plusieurs à réagir aujourd'hui, que ce soit par texto au 418-971-1021 ou par le Twitch, twitch.tv/BLVD-FM. Notamment quand on vous parle de rumeurs de programmation de festivals d'été de Québec, là, souvent ça vient chatouiller un petit quelque chose en vous. On aime ça jaser pour jaser de qui pourrait être là au FEC cette année. On ne sait pas encore à quel moment la programmation sera dévoilée. On pensait au mois de février. Là, finalement, ça irait peut-être au mois de mars, mais dans tous les cas, moi, je vais toujours répéter la même affaire. Là, t'as quasiment pas le droit de chialer sa programmation du Festival d'été de Québec au prix que la passe coûte, malgré les hausses des dernières années. Là, c'est encore quasiment du vol d'avoir accès à autant de spectacles de qualité pour autant peu de dollars. Fait que, ben, hâte de voir la programmation. Puis je peux déjà vous dire que je vais être satisfait, peu importe c'est quoi, la programmation en question. Toujours un plaisir de lui parler, Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, qui est au bout du fil. Madame Morancy, bonjour.
Bonjour, Maxime, comment ça va?
Ça va très bien, vous-même?
Oui.
Vous avez déposé votre mémoire au ministère des Finances du Québec pour porter les besoins exprimés par la communauté d'affaires de la grande région de Lévis et de la Chaudière-Appalaches. À l'image du mémoire du maire de Québec, Bruno Marchand, l'enjeu de l'immigration qui prend une place importante, c'est vraiment l'enjeu de l'heure, ça, au Québec?
Ben, effectivement, nous, on est grandement impactés dans les régions, hein, parce que je pense que vous le savez, on a un taux de chômage qui est excessivement bas, c'est le plus bas au Canada, avec 3%, le plus bas au Québec, et on ne tire pas vraiment notre épingle du jeu au niveau de l'immigration. On sait que, je pense, en 2024, il y a eu 59 000 nouveaux résidents permanents, et on en a reçu seulement environ 3%, et on a un manque flagrant de main-d'œuvre en Chaudière-Appalaches. Je pense que je l'ai répété maintes et maintes fois sur plusieurs tribunes. Donc, c'est ça que c'est l'enjeu numéro un. Puis, ce qu'on demande au gouvernement, bien évidemment, c'est de revenir sur le PEC, le Programme Expérience Québec. On veut plus d'immigration en région, mais on veut surtout garder nos gens qui sont déjà ici, qui sont intégrés, qui sont francophones, qui contribuent à l'économie. Donc, c'est sûr que c'est notre priorité numéro un, Maxime.
Comment vous trouvez ça actuellement de naviguer dans tout ça, durant la course à la chefferie à Coalition Avenir Québec, où là, le parti avec le chef actuel, qui est toujours François Legault, a une certaine position avec Jean-François Roberge, qui est à l'immigration encore. Là, t'as Christine Fréchette dans la course à chefferie qui a son autre proposition. T'as Bernard Drainville qui a l'autre proposition là-dedans. Tout le monde devient un peu mêlé, j'ai l'impression.
Ben oui, effectivement, c'est pas évident pour nous, mais nous, on rappelle tout le temps le même message. C'est clair qu'on a besoin de main-d'œuvre. On avait environ 6 000 travailleurs étrangers temporaires en 2024 sur lesquels nos entreprises pouvaient compter, pas par choix, là, par nécessité, parce qu'on n'en a pas de main-d'œuvre. Qu'on a besoin de ces employés-là et on a besoin qu'ils ne restent pas à Montréal, hein, qu'ils se rendent dans les régions, donc qu'il y ait des actions qui soient mises en place par le gouvernement pour s'assurer vraiment une meilleure régionalisation de cette main-d'œuvre-là qui est fort importante.
Une de vos recommandations, si on change de sujet, là, c'est d'investir durablement dans l'innovation et l'automatisation. Puis là, je parle de recommandations, on peut parler de demandes aussi au gouvernement du Québec. Là. Dans le concret, qu'est-ce que ça veut dire d'investir durablement dans l'innovation et l'automatisation? Puis pourquoi c'est super important aujourd'hui?
J'ai toujours dit, hein, quand l'automatisation, la productivité, l'innovation, ça remplace pas la main-d'œuvre. Par contre, ça renforce. Ce qu'on demande au gouvernement, ben, c'est de démystifier la part que ça peut avoir dans les entreprises, parce que on a fait un sondage en début d'année, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Conjoncture économique avec la Chambre de commerce de Québec, la Jeune Chambre, Québec international, et 64% de nos gestionnaires nous ont mentionné qu'ils veulent investir, mais parfois ils savent pas comment. Et ils ne connaissent pas les programmes qui existent. Fait qu'il y a vraiment un gros travail à faire au niveau du renforcement de l'accompagnement qui est offert aux entreprises, mais aussi les aider à identifier leurs besoins, puis évidemment connaître les programmes, parce que vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à aller voir sur les sites Internet du gouvernement, Investissement Québec et tout ça, on peut en perdre notre latin. Fait qu'on a vraiment besoin qu'il y ait un programme, un projet d'accompagnement qui soit offert à nos entreprises.
Les municipalités, les villes parlent beaucoup de financement des infrastructures de ce temps-là. Pourquoi c'est un dossier que la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis aborde aussi de son côté dans son mémoire?
Honnêtement, là, c'est gros, hein. Vous savez qu'on a un moratoire, nous, à Lévis, depuis un an et demi déjà. Fait que ça nous a un peu ralenti dans nos investissements, mais ça nous a fait forcer à mieux comprendre ce qui se passe dans notre localité. Les municipalités, là, ça joue un rôle super important en gérant des infrastructures publiques. Je pense qu'ils gèrent 60% des infrastructures de la province. Ça inclut les aqueducs, les égouts, la voirie, les bâtiments municipaux, puis on l'oublie. Qu'à ça, il se rajoute d'autres enjeux qu'ils ne géraient pas avant. Je pense à l'itinérance, au logement, au manque de logement, changement climatique et tout ça. Puis on a remarqué que dans le dernier budget du gouvernement du Québec, dans le PQI, il y avait 2,2 milliards de moins qui étaient octroyés aux municipalités pour supporter toutes ces enjeux-là et cette gestion-là. Donc, nous, pour nous, c'est un non-sens. Donc, on demande au gouvernement de rétablir la situation.
Il y a un point qui m'a fait penser à notre ami Frédéric Boisvert de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. C'est quand vous nous demandez de revoir les obligations fiscales, de réduire les délais d'obtention de permis gouvernementaux. Je pense qu'à toutes les fois qu'on a une discussion avec Frédéric Boisvert, il tape sur ce clou-là beaucoup. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Ça a-tu avancé un peu puis on veut aller plus loin?
Non.
C'est tough d'avancer?
Hey, c'est fou, ça l'avance pas du tout. Je suis d'accord avec Frédéric qui est mon homologue. Honnêtement, toutes les obligations fiscales que vivent, que supportent nos entreprises, là, c'est excessivement lourd. C'est pas harmonisé. En fait, faut retenir que 98% de nos entreprises au Québec, c'est des PME. Hein, ils ont peu de moyens, ils ont peu de ressources. Puis on leur demande de remplir des tonnes de paperasse pour faire des demandes de financement ou autre. Ça, ça n'a aucun bon sens. Puis au niveau des permis, c'est la même chose. On se compare dans le monde. On est vraiment en arrière de l'autobus. Vraiment, mais je dirais même du train, parce que imaginez plusieurs locomotives. Là. Je regardais un exemple là, qui m'a été soumis récemment, là, juste pour le fun. Je trouve que des fois, je sors ça des chiffres, ça nous permet de mieux comprendre. Juste pour, dans le secteur minier, démarrer un projet, là, ça demande 660 permis et autorisation du gouvernement provincial avec des délais sur plusieurs années. C'est un non-sens.
Ouais.
Fait que, tu sais, on regarde vraiment comment fonctionne notre paperasse ici, comment ça fonctionne le fardeau administratif. Là, c'est vraiment lourd. Puis quand on fait des sondages auprès de nos entreprises, comme on a fait avec Conjoncture en début d'année, c'est le stress numéro un. En fait, c'est le frein numéro un. Je pense qu'il faut sensibiliser notre gouvernement, Maxime, encore et encore.
Je suis curieux de vous entendre sur la suggestion d'un autre groupe, suggestion de la CSQ qui, dans ses suggestions là, des consultations prébudgétaires, a lancé l'augmentation du salaire minimum à 20 $. La position de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis là-dessus, les PME en pensent quoi, ça, de l'augmentation du salaire minimum, dans ce cas-ci, à 20 $?
Ça a toujours un impact direct sur nos entreprises. Hein. Vous savez, on n'est pas toutes, je viens de le dire, c'est 82% de nos entreprises au Québec, c'est des petites entreprises. Fait qu'évidemment, eux autres, ils conjuguent avec tous les coûts qui n'arrêtent pas d'augmenter. Fait que c'est sûr que nous, on est mitigés. Quand on arrive à des recommandations comme ça, je trouve que ça ne tient pas toujours compte des réalités de nos entreprises. Fait que, honnêtement, c'est dur pour nous de supporter cette prise de position-là.
Côté stratégie navale, on sait à quel point c'est gigantesque comme importance à Lévis et les environs. Vos demandes au gouvernement de François Legault, ce sont lesquelles?
Bien, en fait, vous savez qu'à Lévis, on a plusieurs atouts, dont la dévie, qui représente quand même 50% des capacités de production du pays en construction navale. Fait qu'on a beaucoup d'expertise aussi reliée à la défense. On peut mettre les deux dans le même panier. Je pense à tout ce qui touche à la technologie, la logistique, etc. Donc, on sait aussi que le gouvernement du Québec a soumis une liste de 9 projets d'investissement en défense au fédéral. Donc, évidemment, nous, on veut tirer notre épingle du jeu encore une fois avec la DEVI. On parle des navires haute technologie, des sous-marins aussi qui sont dans les projets anticipés. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est que Lévis, le Grand Lévis, soit vraiment reconnu comme pôle stratégique de la construction navale et aussi la défense, donc avec les retombées associées. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités qui se dessinent. Puis, dans notre mémoire aussi, on parlait au niveau de la stratégie maritime, bien, de l'importance de la main-d'œuvre, la formation aussi qui va dans ce sens-là, parce que vous savez que Lévis, entre autres, recherche actuellement autour de 1000 travailleurs. Je pense que ça va bien. Il y a d'autres entreprises manufacturières. Vous savez qu'on est une région manufacturière aussi à Chaudière-Appalaches. Donc, on recherche aussi des travailleurs. Je vous ai mentionné qu'on n'en avait pas beaucoup, mais il faut les former quand même. Puis on a beaucoup d'atouts sur notre terrain, je pense au centre de robotique et de vision industrielle, commission scolaire, Cégep de Lévis, l'université. Donc, il faut vraiment que le gouvernement mise sur ces projets-là, mais aussi assure aussi une prévisibilité, excuse-moi, concernant la formation et l'expertise qu'ont ces commissions scolaires-là que j'ai nommées Cégep et Université. Donc, c'est un peu ça qu'on demande. Je pense que je t'ai fait une grande réponse, là, mais c'est vraiment ça qu'on demande dans notre mémoire.
Avant de vous laisser aller, Marie-Josée Morancy, pas le choix de vous questionner sur le troisième lien. D'après moi, les entrevues sont rares dans lesquelles vous n'avez pas abordé au moins un petit peu ce sujet-là. Plutôt cette semaine, Christine Fréchette a présenté son plan là, en trois phases pour nous mener éventuellement peut-être à un troisième lien partenariat public-privé à l'Est. Et là, depuis ce temps-là, Bernard Drainville se promène en disant sur toutes les tribunes que ce que Christine Fréchette propose comme projet, ben, c'est en fait de tuer le troisième lien. Puis que lui, son projet, même si le corridor central est peut-être pas le meilleur aux yeux de tout le monde, ben, c'est mieux ça, que ça va coûter un peu moins cher, mais que c'est mieux que pas de projet pantoute. La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis se situe où entre les deux?
En fait, honnêtement, le corridor anticipé, le corridor central, on n'a jamais compris le comment du pourquoi il devait être là, parce que personne ne nous l'a expliqué. Ça, je l'ai dit aussi en entrevue plusieurs fois cette semaine. Honnêtement, j'ai aucun ministre qui est venu nous rencontrer, et pourtant, on est une partie prenante assez importante comme Chambre de commerce qui avons remis ce projet-là dans l'actualité en 2014. Donc, honnêtement, pour le défendre, il faut le comprendre. Nous, ce qu'on demande quand même depuis belle lurette, depuis trop longtemps, c'est un lien à l'Est pour assurer, évidemment, une boucle périphérique, assurer désengorgement de l'Est du Québec, assurer l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre. Et oui, évidemment, on parle de sécurité. Ceci étant dit, le corridor central préconisé que M. Drainville défend, on ne le comprend pas. Puis en plus, ben les parties prenantes, je pense à Valero, je pense quand même au gouvernement fédéral qui s'est pas du tout prononcé parce que ça traverse la ferme Chapet, les terrains de la ferme Chapet, quand même ce corridor-là, je ne sens pas d'acceptabilité sociale vraiment et je pense que c'est dur de nous convaincre dans ce sens. Et que moi, ce que j'ai dit, c'est qu'honnêtement, si Mme Fréchette anticipe un lien à l'Est, ben c'est ça qu'on demande depuis longtemps. Et on trouve que ça a juste du bon sens. Maintenant, prudence, est-ce que ça va se faire? C'est vrai que ça ressemble à une stratégie pour gagner du temps, pelleter par en avant. Puis ça, ben, ça nous indispose un peu. C'est qu'on va être obligé, mon cher Maxime, de continuer nos revendications et de rappeler l'importance de ce lien-là à l'Est.
De ce que je comprends, donc, Christine Fréchette vous a au moins consulté avant de présenter son projet.
Tout à fait.
Mais
ça, j'aimais ça. Mais... Excuse-moi, vas-y.
Mais vous avez jamais été consulté par le gouvernement en place pour ce qui est du trajet central. C'est bien ça. Christine Fréchette vous a consulté. À part ça, il n'y a personne du gouvernement qui vous a parlé.
Et voilà.
OK.
C'est clair.
OK. Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bye-bye.
Bye-bye. À la prochaine. Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Toujours plaisant de discuter de ce qui se passe sur la Rive-Sud parce qu'on sait qu'évidemment, ça vient quand même avoir un impact sur ce qui nous touche ici à Québec en étant dans la grande région de Québec. On est présentement en match de médaille de bronze pour ce qui est des femmes au hockey. Les Suissesses qui affrontent les Suédoises. Et on arrive en fin de troisième période et c'est 1-1 la marque. Fait que vraiment la Suisse là, en hockey chez les femmes qui cause une autre belle surprise aujourd'hui. Et encore une fois, la gardienne de but suisse qui a été bombardée jusqu'à maintenant de 31 tirs a accordé un seul but. 1-1 la marque, reste 19,7 secondes à faire en troisième période. Je vous tiens au courant de ça. Et ça, ben, c'est bien sûr en attendant le match de médaille d'or, 13h10, les Canadiennes qui vont affronter les Américaines. Au retour dans le point de max, c'est l'Open Mic avec Audrey Pinchot.